des sons sur le T. Note.
Moi je suis aïe aïe aïe, j'incarne le mal 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 ouais. Moi je suis aïe aïe, j'incarne le mal 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 ouais. 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 J'incarne le mal, j'incarne le mal, j'incarne le mal.
Radio G 101.5 FM.
Yeah, okay, let's go.
Sur Radio G. Chose promise, chose due. C'est au voyage que nous vous invitons aujourd'hui, puisque l'automne s'est installé dans que la pluie tant attendue fait des claquettes sur les trottoirs, aussi bien à minuit qu'à midi, que le spleen nous guette à chaque coin de rue et que le moment de régler nos montres arrive à grands pas pour passer à l'heure d'hiver. Quelle meilleure thérapeutique que de s'évader, s'offrir le luxe de partir dans les lointains, sans trouer la couche d'ozone ni aggraver notre empreinte carbone, simplement par la puissance de notre esprit et le truchement de quelques instruments aussi efficaces que simples. Et là, je ne parle pas des cigarettes qui font rire, mais tout simplement des livres qui sont à portée de notre main. Alors pendant une heure, fermez les yeux et laissez-vous porter. Vous sentez déjà les effluves du désert ? L'air devient tout de suite plus humide. Au loin, des gamins qui crient en courant dans la poussière et tout à l'horizon, dans l'air qui ondule à cause de la chaleur, d'impressionnantes montagnes au sommet couvert de neige. Comme guide aujourd'hui, j'ai invité deux interlocuteurs de choix pour nous accompagner, sinon pour tenir notre boussole. Mathilde Dupont, responsable de la maison des éditions Artisans Voyageurs, et Pierre Benzerara, créateur avec son fils de la librairie Itinérance à Angers. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, prêt pour le voyage ? Eh bien, voilà, je vais commencer avec vous, Mathilde Dupont. Vous êtes la responsable des éditions Artisans Voyageurs. Depuis seulement quelques mois, la maison d'édition existe depuis 2005 et elle vous a été transmise par Paul et Arthur David, grand voyageur s'il en est. Vous êtes, il me semble, très jeune et je ne peux m'empêcher de vous demander comment on en arrive à diriger une maison d'édition.
Ça s'est fait de fil en aiguille. C'est surtout que j'ai fait mon stage de BTS édition chez Artisans Voyageurs il y a 8 ans maintenant, et au fur et à mesure, je suis restée en contact avec eux, je les ai aidés sur certaines mises en page et certains salons, et petit à petit, mon travail a pris plus en plus d'ampleur avec eux, et surtout quand j'ai emménagé dans la région. Donc là, la question s'est posée, vu que Paul et Arthur souhaitent repartir sur les routes à vélo. Donc la question s'est posée si moi je voulais faire perdurer la maison d'édition.
Ça veut dire que vous étiez déjà fortement investi, engagé pour qu'on puisse vous confier cette responsabilité-là.
Oui. Déjà quand ils repartaient en voyage, c'est moi qui m'en occupais pendant ces 8 années. Et du coup, de fil en aiguille, mes responsabilités ont été de plus en plus grandes.
Voilà. Donc aujourd'hui, la maison Artisans Voyageurs publie, édite des livres autour du voyage et aussi des carnets de voyage. Artisans Voyageurs, c'est un nom très évocateur. On est, par ce nom, on est quand même assez loin des tours opérateurs qui vendent des voyages clés en main.
Oui, c'est ça. Nous, on ne veut pas le voyage tout fait, planifié H24, c'est vraiment un peu hors des sentiers battus, qui change de l'ordinaire, et vraiment des voyages qui s'ouvrent vers ce que le voyageur voit, et non son voyage personnel nombriliste, en fait.
Découverte du monde.
Découverte du monde et une ouverture sur le monde en général.
Et sur les autres.
Et sur les autres, surtout, oui.
Comment, quand on est dans une maison d'édition comme ça, et qu'on va le voir tout à l'heure, qu'on a un catalogue qui est quand même extrêmement fourni, comment on fabrique ce catalogue? Comment on constitue ce catalogue? Comment on trouve des auteurs et qu'on décide de les publier?
C'est pour certains vraiment au hasard des rencontres. Et d'autres sur les salons, notamment le festival du carnet de voyage de Clermont-Ferrand, qui organise tous les ans une sorte de speed dating entre éditeurs et carnetistes, ce qui nous permet de rencontrer différents voyageurs qui ont fait des carnets suite à leur voyage. Et nous, on voit en fonction si ça correspond à notre ligne éditoriale ou pas, et puis si ça colle aussi avec l'auteur.
Aujourd'hui, donc, depuis quand vous êtes responsable de la maison d'édition ?
Officiellement depuis septembre.
Donc aujourd'hui, vous avez quand même une lourde responsabilité qui pèse sur vos épaules. Vous allez sur les salons, vous rencontrez des auteurs, vous prenez la responsabilité de faire les choix. Oui. Il n'y a pas des fois des grands moments de solitude ?
Il y a parfois des doutes, il y a aussi parfois des remises en question suite à un projet qui était en cours et qui stoppe net suite à une mésentente avec l'auteur. Enfin, ça peut arriver aussi, oui. Donc c'est remise en question, et puis après j'ai appris à ne pas prendre les choses trop à cœur, et puis ça fonctionne bien, et surtout que j'ai quand même majoritairement beaucoup d'auteurs qui sont très très... attachés à leurs livres et qui font fonctionner l'aventure comme il faut.
Mais donc ces auteurs, si par exemple aujourd'hui, là, comme il y a, vous imaginez bien qu'il y a des millions de personnes qui nous écoutent, si je dis aux voyageurs qui ont produit, fabriqué leurs livres, est-ce qu'ils peuvent vous les envoyer comme ça en direct ?
Oui, je reçois des manuscrits régulièrement à la maison. Après, il y a beaucoup de récits qui ne correspondent pas, ou qui sont trop qui ressortent vraiment du domaine personnel. J'en ai eu un la semaine dernière. La personne a une écriture très bien, qui correspond vraiment, mais c'est vraiment un récit trop personnel et je ne me vois pas, moi, l'éditer en tant que tel. Alors que c'est surtout pour le cercle de la famille.
D'accord. Donc, vous avez un regard critique. Est-ce qu'il y a un comité éditorial dans la maison d'édition ?
Oui, mais là récemment, en fait, j'ai monté un comité de lecture. Donc là, il y a 4 personnes, toutes bénévoles, qui m'aident dans les lectures des manuscrits. Donc moi, je fais déjà une présélection quand je les reçois. Et si ça peut correspondre, je leur confie. Et eux, ils me font un retour. Et suite à ça... Je vois si je donne suite ou pas.
Et si, vous avez reçu des manuscrits, vous les avez présélectionnés, vous les avez soumis au comité éditorial, vous avez choisi, est-ce que, après ce choix, vous réintervenez auprès de l'auteur ? Est-ce que vous lui faites des préconisations ? Ou est-ce que vous réalisez son travail immédiatement ?
Non, en général, c'est rare que je publie un texte tel quel. Il arrive souvent certains passages qui sont peut-être pas forcément très clairs, parce que la personne qui écrit, c'est la personne qui a vécu le voyage, elle sait où elle était à ce moment-là. Et nous, en tant que lecteurs, sur le moment, ça arrive qu'on suive pas l'auteur ou qu'on se perde. Du coup, avec l'accord de l'auteur, soit moi je retravaille, soit je lui demande lui de retravailler tel ou tel passage en fonction.
Et pour cette émission, je vous ai demandé de venir avec quelques-unes de vos productions. Quelques-unes de vos productions sur lesquelles je n'ai exercé aucune pression, sauf pour une. Et effectivement, vous êtes venu avec 5 ou 6 ouvrages. Moi, j'aimerais que... Alors, C'est votre choix, c'est un choix complètement subjectif, mais c'est certainement aussi représentatif du travail de votre maison, mais aussi ça doit sans doute correspondre à quelques-unes de vos sensibilités. Est-ce que vous pouvez nous présenter, ben, je vois le premier, une journée dans les Médinas. En plus, là, vous nous faites un super cadeau parce qu'il n'est même pas édité.
Voilà, il est en cours d'impression.
D'accord. Qui est l'auteur de ce carnet ?
Donc, elle s'appelle Suzanne Ayot. Elle vit à Montpellier et je l'ai rencontrée justement lors du speed dating à Clermont-Ferrand il y a 2 ans maintenant. Et j'ai beaucoup aimé son style d'aquarelle. Et sa personne en tant que telle, qui a fait aussi que j'ai accepté de travailler sur ce carnet.
Pour donner quelques idées aux auditeurs, voilà, j'ai le livre, alors je vais essayer de ne pas le faire tomber parce que ce ne sont que des feuilles volantes. C'est donc un livre avec à la fois des petits blocs de texte, pas forcément très importants ou très nombreux, des aquarelles, à la fois de paysages et de personnages. Là, j'ai sous les yeux des jeunes, on peut supposer des jeunes, qui sont dans une rue, qui sont en train de jouer au football dans une rue, comme beaucoup de gens. L'auteur a d'ailleurs fait deux dessins, un dessin vu de haut et puis un dessin vu de travers. C'est des personnages qui sont assez simples, assez très figuratif, c'est un travail très figuratif, et l'aquarelle, donc le travail de l'aquarelle est vraiment un beau travail parce que c'est un travail qui est une peinture qui s'étend, donc qui ouvre beaucoup de perspectives. C'est sur fond blanc. Je viens de tourner une des pages. Là, je suis sur une des vues de la Médina, une maison, quelques balcons jaunes, des fenêtres qui sont juste suggérées. À chaque fois, on retrouve sur le livre ces deux approches, donc un dessin, un plan, et puis les vues de la rue. C'est vraiment un très, très, très joli travail. Les personnages sont vraiment très typés, très bien représentés. Voilà, donc ça, c'est le premier livre que vous avez apporté, Suzanne Ayot, Une journée dans la Médina. Il sera disponible quand ?
À partir du 17 novembre. Du coup, il sort pour Clermont-Ferrand.
Bien.
Et puis après, il sera disponible donc, chez la librairie Itinérance.
À la librairie Itinérance. Deuxième livre, on va les prendre dans l'ordre. Deuxième livre, alors là, c'est pour les amoureux de, je sais pas, de la voile, de la mer.
Des bateaux. Aussi.
Des bateaux.
Oui.
C'est à Malaga. Le carnet est sous-titré « Chorégraphie portuaire ». Moi, quand je vois cette image de la couverture, donc ce quatre mâts, ça me renvoie il y a pas très longtemps, moins d'un an, j'habitais Dunkerque et dans le port de Dunkerque, il y a un bateau qui s'appelle la Duchessanne qui est exactement à l'image de ce bateau. Donc ça me renvoie effectivement à quelques mois en amont. Là, on est sur un dessin qui est beaucoup plus précis.
Oui, l'auteur est architecte.
Donc, on sent le travail de l'architecte.
Oui.
On est toujours dans l'aquarelle. Il y a des bateaux vus de face, vus de profil. Il y a une... Là, j'ai sous les yeux le phare de Malaga. On peut supposer que c'est le phare de Malaga qui est vu de trois quarts dessous, qui est représenté avec ses corniches, des fissures, des ombres qui sont traitées dans le violet, et tout ça sur un fond blanc, et au-dessus du phare qui se distingue, une mouette comme ça qui vole. Les métiers sont représentés, on n'est pas que dans l'exotisme, on est aussi dans la réalité de la ville, des paysages urbains, des voitures. Bien sûr, les bateaux dominent. C'est un super bel ouvrage, un bel objet en plus, un beau papier. Enfin, on a envie d'y aller, on a envie de partir. Bon, il y a le dessin, là, presque vers la fin, d'un porte-container de la Maersk Line, le géant des porte-containers. Mais ça représente bien l'univers portuaire. Ensuite, on a, vous avez apporté...
De Saint-Louis à Ziguinchor.
Et nous voilà partis au Sénégal. Voilà, une belle couverture à dominante Sénégal, finalement, jaune et vert. À nouveau un travail d'aquarelle, on est toujours sur ce travail d'aquarelle. Là, j'ai ouvert le livre, j'ai sous les yeux un paysage de cases qui sont posées sur l'eau. Il faut que j'approche pour avoir la légende. Les greniers sur pilotis protégeant le mil et l'arachide des rongeurs. Mais c'est traité dans le violet, dans le vert, dans le marron. C'est extrêmement évocateur. C'est vraiment magnifique. On retrouve des vues plus occidentales, une maison beaucoup plus occidentale, des photos qui sont là et qui sont, dans lesquelles les décès viennent s'enclaver. Là, j'ai sous les yeux des fleurs de bougainvilliers, un bord de lac ou un bord de mer, une maison, et puis dessiné au trait, tout simple, deux fleurs de bougainvilliers et une femme qui est là, qui porte un seau. C'est éblouissant. Travail de collage aussi dans ce livre. C'est donc de Saint-Louis à Ziguinchor, excusez-moi pour la prononciation, tableau du Sénégal. C'est une femme qui s'appelle Bénédicte Nemo. Bénédicte Nemo, c'est une auteure donc de chez vous. Elle a quel âge, cette femme?
Bénédicte, elle a une quarantaine d'années. Et en fait, elle est née au Sénégal. Elle est arrivée en France quand elle était enfant, elle avait 5 ou 6 ans. Et elle est retournée au Sénégal pour faire son projet de fin d'études aux Beaux-Arts. Et donc, c'est ce carnet-là qui en est ressorti. Et par exemple, ce carnet-là, on a fait quasiment aucune modification. On l'a pris tel quel et on l'a édité.
C'est étonnant. J'ouvre une double page. Là, j'ai un scribe sous les yeux. Voilà, un scribe, mais un scribe moderne, en fait, ni plus ni moins. Pris sous plusieurs plans, c'est étonnant, vraiment étonnant. Enfin, c'est d'une maîtrise et d'une maturité. Au niveau éditorial, il y a un choix éditorial qui est vraiment superbe, avec des textes qui sont incrustés dans la couleur. C'est un beau livre. Alors, on va passer au dernier. On va pas tout voir, mais on va passer au dernier livre, et je vous laisse le présenter.
Donc, La Sentinelle des Mondes Perdus, tableau d'Éthiopie, qui a été écrit par Perceval. Donc, c'est notre premier carnet couleur de la maison d'édition. Ça a été un gros travail, surtout pour Arthur. Et il faut noter qu'il a été récompensé par le prix de la nuit du livre, le prix coup de cœur. Et donc pour une petite maison d'édition comme la nôtre, c'est quand même assez rare. Et donc l'auteur a vécu pendant 10 ans en Éthiopie, où il était prof d'art plastique au lycée français d'Addis Abeba. Et c'est à son retour qu'il a voulu raconter l'Éthiopie région par région. Donc il traite dans le carnet les aspects culturels, religion... les croyances, les légendes. Et du coup, il travaille à l'acrylique, donc sur des planches à l'origine qui font à peu près 60 sur 60. Et donc on a retravaillé tout ça, les textes retravaillés avec lui, et on l'a publié en tirage limité numéroté de 1000 exemplaires.
Alors moi, j'ai eu la chance de voir l'édition originale, parce que là, vous m'avez dit que c'était un livre de poche, mais bon, il faut avoir des vraiment grandes, grandes poches. Mais l'édition originale, c'est un livre qui est impressionnant dans sa taille, de par sa taille, et qui est vraiment... je me demande si on a besoin de prendre un ticket pour l'Éthiopie. Je crois qu'il suffit de s'installer dans son fauteuil et de feuilleter ce carnet pour pouvoir... pour décoller. Moi, je parlais... je parlais de désert dans la présentation de l'émission, et maintenant je vous propose d'aller aux portes du Moyen-Orient, vers la Turquie. Vous m'avez dit, Mathilde Dupont, aimer les musiques soufies. Eh bien, avec Titi Robin et son Arc Dance Roman, vous allez voir, on n'en est pas très loin. Après cette escapade aux confins de la Turquie, retour sur Radio G 101.5 où vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle des livres en Anjou. Aujourd'hui, nous parlons des livres de voyage. Bonjour Pierre Benzerara.
Bonjour.
Benzerara, excusez-moi. Vous occupez une place à part dans le paysage des librairies d'Angers. D'où vous est venue cette idée ?
Écoutez, on a toujours aimé les livres et le voyage. Alors, quand on a créé la librairie à Angers, donc en 2010, puisqu'on a ouvert début 2011, on s'est posé la question, sur une petite surface, qu'est-ce qu'on allait prendre comme spécialité ? Sur 45 mètres carrés, pas question de faire une librairie généraliste. Le voyage, c'est un domaine, la librairie de voyage, c'est un domaine qu'on connaissait assez bien, puisqu'on a fréquenté, il n'y a pas beaucoup de librairies de voyage en France, mais on les a fréquentées pour la plupart, enfin celles des grandes villes. Et on s'est dit que c'était un bon créneau qui pouvait allier notre goût des livres et notre goût du voyage.
Il y a des odeurs particulières dans la vie, comme de rentrer par exemple dans une brûlerie de café ou passer au petit matin devant une boulangerie. En entrant dans votre librairie, 62 rue Baudrière à Angers, sont des odeurs d'Orient, de savane et de désert qui nous font magiquement tourner la tête. Comment vous constituez votre fond ?
Alors, d'abord, il faut peut-être dire rapidement ce qu'est Libre de Voyage. Libre de Voyage, c'est le voyage, c'est un thème horizontal, c'est-à-dire qui commence par les guides de voyage. Enfin, le plus naturel, c'est les guides de voyage, donc les outils qui sont essentiels à la préparation des voyages. Les guides de voyage, les cartes, mais c'est aussi la littérature. Et en fait, l'idée c'est de donner des outils en fait aux voyageurs, même à celui qui a envie de rêver, pas forcément de voyager physiquement. Et donc, ça va au-delà des guides de voyage. Donc, ce sont des récits de voyage, de la littérature, parce que se pénétrer de la culture d'un pays, c'est aussi se pénétrer au travers de cette culture, au travers de la littérature. Donc la littérature au sens très large, on peut lire un roman policier, je pense à Yeroul Deguer par exemple, qui se situe complètement dans l'espace mongol et vous avez l'impression d'y être. Donc lire un guide de voyage, c'est pas forcément toujours passionnant. Lire un roman policier ou un roman, une fiction, ça peut être vraiment passionnant. Et ça fait découvrir la culture de pays beaucoup mieux sans doute qu'un guide de voyage. Alors, le fond, c'est pas toujours très facile. Les guides, bon, c'est assez facile parce qu'il y a une panoplie de guides, mais qui s'enrichit en fait presque chaque jour. En fait, les éditeurs ont beaucoup d'imagination et c'est un secteur qui marche plutôt pas mal. C'est plus compliqué pour les récits de voyage parce que là, il faut aussi faire un choix, un peu comme notre collègue éditrice. Il faut forcément faire des choix parce qu'il y a beaucoup de récits de voyage et il y en a quand même malheureusement assez peu qui sont passionnants. Il faut se centrer surtout sur les récits de voyage qui sont des récits standards, les grands écrivains de voyage, Nicolas Bouvier, Sylvain Tesson là, qui vient de sortir justement un livre, un très très beau livre. Et ensuite sur la fiction, c'est plutôt au coup de cœur. C'est la littérature autour des voyages, mais pas seulement. C'est la littérature des romans qui se passent à l'étranger, qui fait connaître, comme je le disais, la culture d'un pays. Donc le libraire, il va s'appuyer lui sur les catalogues qu'envoient les éditeurs, et il va aussi se faire sa propre opinion. Heureusement qu'on est limité par l'espace, puisque je vous ai dit tout à l'heure 45 mètres carrés. Donc on a quand même à peu près 10 000 références, ce qui fait beaucoup. Donc on est limité par l'espace. Et heureusement, sinon on aurait tendance à prendre beaucoup, beaucoup plus de livres.
Revenons sur les guides de voyage. C'est des instruments que j'aime beaucoup. Moi, je voyage encore au guide bleu, mais au guide bleu ancien. Hein. J'ai des guides bleus chez moi avec lesquels je voyage, qui sont des années 50, 60 et qui font visiter la France de manière un peu déconcertante, mais toujours passionnante. On a vu effectivement une efflorescence des guides de voyage, il y en a beaucoup, et la plus grande difficulté peut-être pour un voyageur, c'est trouver le guide qui soit pas forcément un digeste d'une visite, ou qui soit, je vais dire, un peu type guide vert. Alors je donne pas le nom de la marque de pneumatique qui l'édite, pour vous, est-ce qu'il y a des guides un peu de référence ?
Bon, d'abord, le libraire, il est là aussi pour conseiller son client. Donc, c'est à lui, en fait, de comprendre quel est le besoin du client, enfin, du futur voyageur, pour l'orienter soit vers une catégorie de guide plutôt pratique, dans lequel il va trouver des adresses d'hôtels, restaurants, etc., soit dans la direction d'un guide culturel, où il va y avoir principalement des informations sur le pays et sur sa culture. Les guides qui sont vraiment culturels, il n'y en a pas énormément, c'est-à-dire ceux qui font une place assez importante à l'histoire du pays, à son économie, sa faune, sa flore, enfin qui permettent de connaître le pays plus que les monuments à visiter. Et donc c'est en fonction en fait de l'échange qu'on a avec le client qu'on va lui dire prenez plutôt ce guide culturel, ou alors prenez ce guide qui finalement va vous donner des informations de base sur les monuments, les espaces à visiter et aussi sur les aspects pratiques. Alors sachant qu'il y a aussi maintenant, enfin on le disait, des guides qui sont maintenant spécialisés, c'est-à-dire qui vont donner des informations sur la façon dont les gens vivent dans le pays où on va. C'est-à-dire je pense à deux éditeurs qui ont sorti des collections magnifiques. Donc l'une s'appelle Ligne de vie d'un peuple. et l'autre qui s'appelle L'âme des peuples. Et comme le nom l'indique, ça permet de, effectivement, d'appréhender la façon dont les populations des pays à visiter vont vivre. Quelles sont leurs préoccupations, quel est leur mode de vie, quelles sont leurs attentes, quel est l'environnement socio-économique, géographique, etc. dans lequel ils sont. Et ça, c'est vraiment important. Ce sont des matières qu'on n'avait pas forcément il y a une dizaine d'années et qui enrichissent, de mon point de vue, la, disons, les voyages.
Vous avez presque pas ou presque pas tout à fait répondu à mes questions, mais c'est pas grave, c'est que vous, voilà, vous avez donné des éléments en citant ces deux guides. Ils sont édités chez qui, s'il vous plaît ?
Alors, il y en a un qui est édité par c'est Nevigata, c'est une petite collection, et l'autre qui est édité sont des petites maisons d'édition par Magellan.
Vous êtes à vous écouter parler. Mais on a eu un échange au préalable, donc je ne vais pas faire comme si je ne savais pas. Vous êtes voyageur. Et donc, pour terminer sur cette question de guide, vous emportez quel guide, vous, quand vous partez ?
Alors, j'emporte, on a la chance d'avoir le choix, donc je vais emporter plusieurs guides. Des guides, les grands guides, en fait, on a beaucoup de clients qui rentrent dans les librairies, qui nous demandent d'exposer, de leur exposer quels sont les types de guides dont on dispose, et puis finalement qui repartent avec le guide qu'ils avaient l'intention d'acheter, par exemple le Routard, qui est un guide un peu incontournable, hein, ça représente quasiment un tiers des guides qui sont vendus en France. Donc on utilise pas mal le Routard, Lonely Planet, au niveau de la préparation, et puis après les guides qui sont plutôt plus complets, en fait, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, la partie culturelle, les guides Gallimard sont vraiment des très très bons guides.
Vous êtes voyageur, vous êtes allé dans quel pays ?
Eh bien, on connaît surtout les pays d'Afrique, parce qu'on a la chance de travailler en Afrique pendant 8 ans, donc 4 ans en Afrique d'Ouest et 4 ans en Afrique du Nord. On a sillonné la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, et ensuite on a visité les pays d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud. Les pays d'Asie, je pense la plupart des pays d'Asie, les pays d'Amérique du Nord. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, les pays du Nord, non, pas trop. C'est vrai qu'on est surtout attiré par le soleil, donc vers le sud. Et puis, il y a un sous-continent qui est l'Amérique du Sud que je ne connais pas du tout. Ça fait partie des grosses lacunes. Et les clients qui viennent nous disent souvent, mais alors, comment ça se fait que vous n'êtes toujours pas allé ? Il y a des choses extraordinaires à voir.
Pour avoir eu des échos de voyageurs qui sont effectivement allés là-bas, oui, il y a beaucoup, semble-t-il, de choses à voir. Alors vous, je vous ai posé une autre épreuve, enfin un autre challenge, c'était de venir avec des cartes. J'ai fixé mon dévolu comme ça de manière complètement arbitraire sur une carte qui regroupe plusieurs pays. Voilà. Qui regroupe la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Myanmar,
la Birmanie,
le Cambodge. Déjà, moi, je suis marcheur, donc mes voyages sont des périmètres extrêmement limités, et mes cartes à moi sont au 1/25 millième. Et là, j'ai sous les yeux une carte au 2 500 millième, c'est-à-dire 15 cm représente 25 km. On s'en sort avec des cartes comme ça ?
Pas pour marcher, bien sûr, mais pour se déplacer, oui.
Alors là, sous les yeux, juste pour faire un peu rêver les auditeurs, la carte est déployée, je l'ai dépliée au hasard, et j'ai Mo Lamine sous les yeux, Chiang Mai, Mandalay. Donc Mandalay, c'est...
On est en Birmanie.
Là, on est en Birmanie. Alors, c'est des noms difficiles à dire. Yenangguang, Meiktla. Alors, quand on imagine que 1 cm représente 15 km, 25 km sur cette carte, en fait, on voit... uniquement, quasiment, quand on déploie cette carte, on ne voit qu'un paysage. C'est-à-dire que les montagnes sont bien entendu dessinées. On voit, l'Himalaya qui doit être plus au nord, ou la Chine. On voit des parties blanches qui sont plutôt les parties montagneuses. On voit le tracé des pays. On voit les fleuves, parce qu'à ce stade de l'échelle, ce sont des fleuves, et ça commence à... Enfin, c'est peut-être le premier rapport au voyage qu'on peut avoir, c'est déployer une carte et finalement presque plonger dedans. Est-ce que c'est ce que vous faites, vous, quand vous partez ?
Alors, la carte, c'est un instrument essentiel, en fait, et contrairement à ce que certains avaient avancé, au moins à une époque, avec l'apparition des GPS, la carte reste toujours très, très réelle. Et vous disiez que vous étiez marcheur, les GPS existent et les randonneurs parfois en utilisent, mais ils achètent quand même des cartes. On trouve des clients qui nous disent, j'ai un GPS, mais je préfère acheter une carte parce qu'au moins je sais où je me trouve. Alors oui, quand on voyage et quand on commence à préparer un voyage, on commence par regarder une carte. Moi, j'imagine pas de voyager sans carte. J'ai besoin de me situer en fait dans l'environnement et voir où on se situe, quels sont les pays qu'il y a autour, quelles sont les rivières qui courent, quelles sont les mers qui bordent le pays. La carte est un instrument, l'allié précieux du voyageur.
Eh bien, c'est une... Pour moi, c'est une belle découverte. Hein. En fait, en vous posant ce challenge, ça me permettait d'avoir les cartes sous les yeux. Hein. J'ai utilisé un prétexte. Hein. J'ai commencé à voyager pour finalement pas grand chose. Et donc, écoutez, moi, je vous propose de revenir en douceur sur Terre, mais pour d'un coup d'aile nous envoler vers l'Afrique du Sud avec le groupe Saint-Macairois. Colonel Cody et Little Big Mick qui interprètent Madiba. Retour sur Radio G, après cette promenade que nous vous avons offerte avec Mathilde Dupont et Pierre Benzerara, eh ben on va vous emmener encore dans une autre promenade grâce à la chronique de Julien Védrenne.
Une autre Europe existe, une Europe tissée de rivières et de vies ordinaires. Et cette Europe, nous l'avons traversée.
Emmanuel Ruben n'aime pas les récits de voyage. Ça ne l'a pas empêché de recevoir le prix Nicolas Bouvier lors de l'édition 2019 du festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo pour Sur la route du Danube. L'ouvrage est paru aux éditions Rivage l'année dernière. Pourquoi l'a-t-il reçu ? Eh bien parce que c'est un récit d'ailleurs, d'apostrophes. Et plus précisément, selon ses propres dires, un récit d'arpentage. Un récit d'arpentage qui conduit le lecteur d'Ukraine vers la France à contre-courant des principaux envahisseurs et à travers 10 pays. Un récit d'arpentage qui est une véritable immersion dans un périple à vélo en compagnie de l'auteur et d'un ami imaginaire aux origines slaves. Alors, à partir de ce moment se pose la question cruciale. Où se situe la frontière entre réel et fiction ? D'autant qu'Emmanuel Ruben distille des incises culturelles essentiellement sur la littérature et le cinéma, mais qui sont indispensables non pas à la compréhension du texte, mais à celle du voyageur qu'il est. Emmanuel Ruben est un fin lettré. Il est actuellement directeur de la maison Julien Gracq de Saint-Florent-le-Vieil. Géographe de formation, amateur de l'œuvre d'Élisée Reclus, géographe tout comme lui, mais aussi anarchiste et écologiste, et qui n'est pas qu'un obscur nom de rue. Citoyen du monde, c'est ainsi que l'homme du 19e siècle se surnommait. Citoyen du monde, c'est assurément la vocation d'Emmanuel Ruben. Sur la route du Danube vit sa deuxième vie sous forme d'une lecture musicale imaginée un soir à la route du sel, un rade iconoclaste d'un grand Le Frêne-sur-Loire. Ce livre de rencontre a rencontré deux musiciens, Toups Bébé, saxophoniste, et François Pernel, harpiste. Une rencontre atypique comme les aime Emmanuel Ruben. Laissez-vous entraîner au rythme des sonorités musicales et de l'ascension de l'auteur. Et n'oubliez pas que le voyage, lorsqu'il est curieux, forge l'intellect. Emmanuel Ruben, lui, est un curieux personnage curieux. Retenez bien ce titre, Sur la route du Danube, aux éditions Rivage.
Harpe et composition François Pernel, saxophone et percussion Toups Bébé.
Lecture Emmanuel Ruben.
Voilà, Emmanuel Ruben nous emmène, lui, dans d'autres contrées. On a parlé de l'Afrique, on a parlé de l'Asie, et lui nous est emmené plutôt dans l'Europe centrale pour son périple à vélo. Mais il faut quand même diversifier les destinations, diversifier les formes, diversifier les entrées, et... on se refuse rien entre les pages parce qu'il y a encore d'autres moyens. Et notre rubrique lecture du jour ne brisera sûrement pas le charme. Cette lecture que va faire Inès, c'est l'occasion de proposer un jeu à mes deux invités. Non pas découvrir le lieu d'écrit, ça serait trop facile, mais tenter de reconnaître l'auteur de cette étonnante carte postale.
New York renferme une grande quantité de marchés abondamment pourvus de toute espèce de production étrangère qui arrivent des Antilles et des pays du Sud. Les plus beaux fruits des environs se tirent des États du Connecticut, de Rhode Island et du New Jersey. Pendant l'été, il se fait une grande consommation de glace qui arrive des montagnes voisines. Les chariots qui en sont chargés se distinguent de loin par la vapeur qu'ils répandent autour d'eux. De tous les cris bizarres que j'ai entendus dans les rues de Paris et de Londres, aucun ne m'a plus frappé que le chant des ramoneurs de New York. Jeune nègre assez semblable aux États-Unis, Madame Malibran a trouvé dans cette mélodie un nouveau genre de motif d'une délicieuse romance. Une chose remarquable dans toutes les grandes villes d'Amérique, et surtout à New York, c'est le grand nombre d'incendies. Il ne se passe guère de jour sans qu'un ou plusieurs de ces événements ne se manifestent. Aussi les pompiers ont-ils un service assez pénible pour les exempter de la milice. Dès que le cri de « Fire !» se fait entendre, une lumière apparaît au sommet de l'hôtel de ville. Du côté où se déclare l'incendie. Alors, tous les pompiers, munis de leurs casques de cuir bouilli et de leurs larges bottes, se placent autour de la pompe. Une foule d'enfants se saisissent de la corde et du timon, galopant comme des chevaux, animés par le bruit des roues, la lueur funèbre des torches que portent les pompiers, et le cri solennel de « Fire, fire !» qui retentit au loin. où est inscrit le numéro, qu'il proclame avec son porte-voix, car la dernière rendue paye une amende. Des guides conduisent au lieu de l'incendie, cette masse du peuple qui grossit sans cesse. Les pompes se rangent en bon ordre, marchent à mesure qu'on les appelle par numéro. Les balanciers se meuvent avec une incroyable rapidité. Les flammes de l'incendie, jointes à la clarté des torches, illuminent cette scène de tumulte et d'agitation. Bientôt, au signal de leur chef, tous se séparent, les enfants reconduisent silencieusement les pompes qu'ils ont emmenées, et tout rentre dans le repos habituel jusqu'à la première alerte. L'aspect général de New York ne peut se comparer à aucune ville d'Europe. Ce sont à chaque instant des contrastes qu'il est plus facile d'observer que de décrire. Il y a dans cette capitale de l'Amérique un mélange de luxe et d'activité commerciale qui semble incompatible avec la rudesse sauvage et le calme de la campagne environnante. Mais ces lieux, remplis d'une foule empressée, ces trottoirs tumultueux, ces places où circulent des chariots, des voitures, des stages de voyage, ces travaux bruyants de son port, tout change d'aspect les jours de fête. Les rues, les promenades même sont désertes. Les théâtres, les établissements publics sont fermés. L'étranger qui parcourt avec étonnement cette ville si commerçante et si animée n'entend plus que le chant religieux qui s'élève avec l'encens dans les temples. Et le long des maisons, la voix monotone d'un vieillard lisant la Bible à sa famille assemblée et souvent tout ce qui vient frapper son oreille. C'est alors que les places, avec leurs jardins, paraissent spacieuses, les rues larges et régulières, et que les lumières de la ville, placées de chaque côté des trottoirs, comme dans les beaux quartiers de Londres, se déploient en file interminable dans Broadway Canal, Greenwich, Pearl, Washington Street. Les milices de New York, toutes braves qu'elles peuvent être, ne se distinguent pas par la tenue. Point d'ordre, peu d'ensemble dans les mouvements, à chaque instant, le soldat quitte son rang pour boire un verre de bière et se remet en marche, sans col, son habit ouvert, le cigare à la bouche. Les dragons sont un beau régiment composé de vigoureux farmers des environs, mais ils ont un aspect étrange de milice d'hommes à la minute, dont le capitaine Lawton est le type parfait. Ce qui nuit encore au coup d'œil, c'est la diversité des uniformes et surtout des drapeaux, sur lesquels sont peints des portraits de Washington, de Lafayette, de Franklin, des batailles entières, mais aussi ces troupes avec leurs tournures désordonnées. N'en ont pas moins une grande habitude des armes. Et elles exécutent avec promptitude des manœuvres difficiles. J'ai vu souvent des escadrons entiers se ranger sur un bateau à vapeur, malgré la frayeur des chevaux, et aller passer la revue dans les îles de la Rade. Les habitants n'ont point de caractère distinctif bien tracé. Et, comme les autres Américains, ils sont entreprenants, actifs, voyageurs par habitude. Des rapports si fréquents avec les gens de toutes les nations ont fait disparaître à New York bien des préjugés de l'intérieur, des habitudes enracinées dans la campagne. De ce mélange de tant de peuples, il est résulté une liberté d'action qui permet à chacun de se conformer à ses goûts. Et, bien que chaque étranger aime à vivre avec ses concitoyens, le commerce est un lien solide qui unit tous ces hommes entre eux.
Merci Inès. Alors, dites-moi, pour vous, qui peut être cet auteur ?
Un auteur manifestement du 19e, d'après la description, donc plutôt 1850.
Ah, pas
peut-être,
mal.
Peut-être un Anglais, puisqu'il parlait de Londres.
Mm-hmm. Allez, je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. C'est facile et difficile. Difficile parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir une culture. Moi-même, je ne l'ai pas, donc il n'y a pas de raison que je la demande à mes invités. Donc ça, c'est l'aspect difficile. L'aspect facile, c'est l'émission Entre les pages. C'est l'émission qui parle du monde des livres en Anjou et on essaye à chaque fois de faire en sorte que les acteurs soient de l'Anjou. Et là, la lecture que Inès vient de faire, c'est extrait du tome 1 des Souvenirs atlantiques, voyage aux États-Unis et au Canada par Théodore Pavy. Et Théodore Pavy, il est né à Angers. Et il a vécu en 1811, il est mort en 1896. Son livre, ce livre-là, dont Inès vient de nous lire un extrait, a été édité en 1833. C'est-à-dire qu'il avait 22 ans quand il a écrit ce livre, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors, pour la petite histoire, Théodore Pavy parlait quand même 9 langues. Alors, il y avait dans ces langues, il y avait l'allemand, peut-être, mais il y avait l'hébreu, l'arabe, l'hindoustani, le chinois et le mandchou, juste pour donner une idée du niveau culturel de ces grands voyageurs-là. Il a eu toute une carrière, il a fini au Collège de France. Ça fait partie des grands voyageurs. Il a aussi enseigné à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Donc voilà, c'était important de découvrir que les voyageurs ont aussi vécu dans d'autres temps.
Oui, là, je voulais juste signaler que la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque municipale d'Angers a ressorti il y a à peu près 5 ans un fonds donc de Théodore Pavy et avait fait une exposition d'ailleurs, certains l'ont sans doute vu, et la revue Bout du Monde avait fait un numéro consacré en partie à Théodore Pavy avec des dessins, parce qu'il était aussi dessinateur.
Il était aussi dessinateur, oui.
Des dessins et des textes de Pavy.
Oui, oui. Donc voilà, c'était, voilà, c'est pour montrer que les voyages, certes, forme la jeunesse, mais que d'autres ont voyagé, et de moi, ce que j'ai pu découvrir de Théodore Pavy, il y avait des qualités d'observateur indéniables, et il y avait ce qui m'a semblé, moi, transparaître, c'est une forme d'éthique dans le voyage. Là, dans cette description de New York qu'il fait, on a un observateur, un véritable observateur qui prend des notes. Alors moi, quand j'ai lu cela, pour être effectivement allé à New York, le décalage est quand même extrêmement important. Et donc, après cette question qui était un peu digne du jeu des 1000 euros, je vous propose une petite pause musicale avec un groupe qui porte un nom tout à fait anglophone, puisque c'est Go to the Dogs, et il va nous interpréter une ballade façon John Zorn.
Thank you.
Avec ces Go to the Dogs et leur élégante ballade, c'est vrai que vous avez pu croire un instant que votre radio avait glissé traîtreusement sur les ondes de FIP. Mais non, vous écoutez toujours entre les pages et vous êtes toujours sur Radio G 101.5. Quand même, faut dire que c'est un étrange nom pour un groupe d'ici, hein. Go to the Dogs, ça me paraît bizarre, mais malgré tout, la musique, c'est quand même de haut niveau. Nous arrivons à la séquence agenda de l'émission, plusieurs rendez-vous au programme dans les jours à venir. Tout d'abord, le magazine La Tête en Noir, le fanzine La Tête en Noir, dédié au polar, fête son 200e numéro. Bel exemple pour ce petit bimensuel, toujours riche d'informations sur l'actualité du roman noir. Pour ce 200e opus, La Tête en Noir vous invite demain, jeudi 24 octobre à 18h, à la librairie Contact à Angers, pour y rencontrer trois auteurs. Ronan Goézec, auteur de polar rugueux, fouetté par les embruns bretons. L'immense Marc Villard, plus que prolifique et brillant novelliste. Et Julien Elbrock, auteur angevin, qui fait dans le genre, alors lui, c'est plutôt saignant. Vendredi 25 octobre, au J.I. d'Angers, la manifestation science-fiction se continue avec de 14h à 18h des ateliers écriture gratuits. Ni plus ni moins animé par Inès Amat.
Et oui, et en plus je serai en costume débile, s'il y en a qui veulent venir me voir, uniquement pour ça. Alors, ce dimanche 27 octobre, au Longeron, à la salle Boris Vian, c'est le festival de la maison d'édition Écriturial. 30 auteurs seront présents. Écriturial, c'est une petite maison d'édition qui mise sur la solidarité entre ses auteurs, et le résultat est vraiment pas mal. J'irai prochainement les rencontrer.
Je vous rappelle aussi le nouveau numéro de la revue Bout du Monde. Il est consacré à l'Himalaya et le résultat est, comme d'habitude, magnifique. Rien qu'à lire les noms des pays cités, Mustang, Zanskar, Tibet, Népal, pour moi, ce sont les réminiscences de Michel Pessel et ses Cavaliers du Cam, ou d'Alexandra David-Nil et son voyage d'une Parisienne à Lhasa, qui ont plus que bercé ma jeunesse. La revue du Monde, c'est dans toutes les bonnes librairies, pour la très 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 modique somme de 15 euros.
Et enfin, nous vous rappelons le rendez-vous que nous vous fixons le lundi 11 novembre à la librairie Richer pour un numéro spécial de Entre les pages enregistré en public pendant la manifestation Richer 49 où près d'une quarantaine d'auteurs sont invités pour rencontrer le public. Si vous voulez assister à l'émission, réservez votre place en nous envoyant un courriel à l'adresse de l'émission entre les pages tout collé @laposte.net. Allez, faites-nous plaisir et, pour qu'on rigole un peu, envoyez-nous un courrier le plus ligérien possible. Au cours de ce voyage, nous vous avons offert et vous avez pu écouter. Alors, en premier, on avait Titi Robin qui a interprété Denise Roman, extrait de son triple CD Les Rives. Colonel Cody et Little Big Mick qui ont réussi à construire le pont entre Cholet, Saint-Macaire, en Mauge et l'Afrique du Sud avec le titre Madiba, extrait de leur album Bones, et Go to the Dogs qui a interprété façon John Zorn la ballade tirée de leur album Extended que vous pouvez retrouver sur SoundCloud.
Vous l'avez peut-être découvert et c'est une excellente nouvelle, mais le site de votre radio préférée est de nouveau accessible. Vous pouvez donc nous écouter en direct ou podcaster l'émission. Bientôt sur la page de l'émission Entre les pages, vous retrouverez en plus des émissions passées, des reportages et tout ce qui ne peut trouver sa place dans nos 58 minutes imparties. Merci encore à Mathilde Dupont et à Pierre Benzerara d'avoir répondu à cette invitation. Bonne soirée à tous les auditeurs et maintenant, comme Radio G fait parfaitement les choses, nous retrouvons le journal de RFI qui ce soir colle parfaitement à l'émission. C'est un plaisir sans nom que d'entendre ce journal qui démarre toujours avec une heure et une localisation pour le moins inattendue.
Radio G. www.radio-g.fr. Plus de